Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Lundi, les Serbes de Bosnie ont célébré en grande pompe leur fête nationale, comme chaque 9 janvier depuis 1993. Sauf que cette cérémonie est jugée totalement illégale par les autorités de Sarajevo. Ce jour est en réalité une démonstration de force pour le président de la Republika Srpska, Milorad Dodik, qui ne cesse de s'opposer au pouvoir central. Témoignage des divisions qui continuent de gangréner la Bosnie-Herzégovine plus de 20 ans après la fin de la guerre. Simon Rico.
C'est sous un ciel gris et dans un froid glacial que les forces armées ont paradé lundi matin dans les rues de Banja Luka, la capitale de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Dans le parterre d'invités triés sur le volet, figuraient plusieurs membres des partis de l'extrême droite européenne, dont le Front National représenté par les eurodéputés Édouard Ferrand et Dominique Bild. À la tribune, le président Milorad Dodik a salué un jour spécial pour l'unité de la Republika Srpska. La veille, il avait critiqué les autorités de Sarajevo et plaidé pour une séparation dans le calme de la Bosnie-Herzégovine. Ces appels de Milorad Dodik à la partition sont devenus monnaie courante et ils sont régulièrement condamnés par les puissances occidentales qui continuent de maintenir le pays sous tutelle. En septembre dernier, l'homme fort des Serbes de Bosnie avait d'ailleurs déjà défié les internationaux en organisant un référendum sur le maintien de cette fête qui marque le jour de naissance de la Republika Srpska, le 9 janvier 1992. 99% des votants s'étaient prononcés pour, au grand dam des autorités de Sarajevo qui estiment que cette célébration est contraire à la Constitution. La justice bosnienne a en effet déclaré qu'elle était discriminatoire vis-à-vis des populations non serbes. Il faut dire que le 9 janvier est avant tout la Saint-Stéphane, l'une des principales fêtes orthodoxes, la religion pratiquée par les Serbes, quand les Bosniaques sont musulmans et les Croates catholiques. Ramiz Salkić, le vice-président bosniaque de la Republika Srpska, a dénoncé le fait que Milorad Dodik cherche encore une fois à exacerber les tensions intercommunautaires, jugeant que tant que l'on célébrera la fête nationale le 9 janvier, l'idée d'une Republika Srpska ethniquement pure et réservée aux Serbes sera d'actualité.
Somos socorristas, salvamos vidas en las playas de nuestro país y un buen día en 2015, después de ver diversas fotos de personas y niños muriendo ahogados en las costas de Turquía y de Grecia.
C'est ce qu'on vient d'entendre, hein, la photo du corps du petit Taylan échoué sur une plage grecque et qui a bouleversé ces secouristes catalans. Alors en septembre 2015, Oscar Camps et Gérard Canals se sont partis à Lesbos en Grèce pour secourir les migrants qui se noyaient au large. Les deux hommes ont créé depuis Proactiva Open Arms et ont porté secours à près de 8000 personnes en mer Égée, 15000 en Méditerranée au large de la Libye. L'ONG a récemment été mise à l'honneur dans le documentaire Astral, projeté dans 140 salles de cinéma en Espagne et diffusé sur la chaîne La Sexta, un véritable succès. Martine Pouchard est allée à leur rencontre, profitant qu'ils soient à terre, à Badalona, dans la banlieue de Barcelone.
Pronto, buongiorno. Sono il comandante dell'Astral.
Dans le port de Badalona, l'Astral, le voilier de l'ONG est en réparation. Dans quelques jours, il repartira en mer vers le canal de Sicile au nord de la Libye. Oscar Camps, le directeur de Proactive Open Arms, est plus déterminé que jamais. Son objectif, c'est celui de tenter de sauver ceux qui fuient la guerre, la misère. Il ne mâche pas ses mots pour dénoncer l'inaction de l'Europe.
L'Europe a décidé de ne rien faire et s'est délibérée. C'est d'ailleurs la position qui a été adoptée lors de la dernière réunion des Nations Unies. En fait, les pays européens externalisent leurs contrôles frontaliers et paient des pays comme le Maroc, la Turquie, la Libye ou le Nigeria pour faire le seul boulot. Ce n'est pas du tout la solution. Nous devons trouver une alternative pour résoudre cette crise parce qu'elle n'est pas seulement humanitaire, c'est aussi une crise de valeurs. Les Européens ne respectent ni les droits de l'homme ni la Convention de Genève.
Sur la réalité de ce drame, il y a les images que nous voyons tous, mais au-delà, ce qui impressionne Gérard Canals, coordinateur du mission, c'est le courage et la volonté de ceux qui se lancent dans cette aventure au prix de leur vie.
Quizá ce dont l'être humain est capable pour survivre. Tu te demandes comment des familles entières peuvent s'embarquer avec leurs enfants dans une aventure pareille, si dangereuse. Une traversée en mer, dans une embarcation de fortune. Ce qui m'a impressionné. C'est très dur également de voir tous ces cadavres qui flottent sur l'eau et d'imaginer ce qu'ils ont enduré.
Comment tienen que verse para tener que hacer esto?
Ok, recibido, estamos en ello.
Un voyage vers l'inconnu, l'Europe, possible Eldorado, quel est l'avenir de ces naufragés? Qu'est-ce qui les attend? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Oscar Camps le résume en un mot.
Paz.
La paix.
J'espère la paz. Seguridad.
Voilà ce qu'ils attendent, la paix, la sécurité et qu'ils puissent dormir sur leurs deux oreilles. Quand tu les récupères et qu'ils soulèvent juste leur t-shirt, on voit leur corps meurtri. Ils ont subi l'enfer. Les femmes, elles, elles ont toutes été violées. Leur drame est inimaginable.
Es inimaginable.
Décidément, l'Europe n'est pas à la hauteur, poursuit Oscar Camps.
On
colle des étiquettes à tous ces réfugiés et les médias se chargent de les qualifier d'illégaux, de réfugiés économiques ou encore de terroristes islamistes. Alors les réfugiés ne cherchent que la paix et la tranquillité. La majorité fuit la guerre, la misère, mais surtout la persécution.
Persécuté, puis exploité, volé, abusé, lors de la présentation du film, le réalisateur du documentaire Astral, Jordi Évole, a raconté comment les mafias agissaient.
Le trafiquant désigne l'un des passagers pour guider l'embarcation. Auparavant, c'était le boulot des passeurs, mais comme il y a eu des arrestations, ils ont changé de méthode. Ils lui donnent juste une vague indication de direction. Va par là, vers les lumières, c'est l'Europe. En fait, ce sont des plateformes pétrolières libyennes. Ce manque d'humanité, ça donne la chair de poule.
C'est un engaño tras otro engaño con una inhumanidad.
Pourtant, les migrants continuent de faire appel à ces mafias car elles sont le seul recours, comme l'explique le secouriste Gérard Canals. Mais à quel prix ?
5 000 personnes par jour pour 1 000 euros le passage. Faites le calcul. Cela représente 5 millions d'euros. Si tout cet argent servait à apporter une aide plus efficace au lieu de financer les mafias. Mais les migrants n'ont d'autre choix que de passer par ces trafiquants puisque les voies terrestres sont fermées. Il ne reste que la voie maritime avec la mort au bout.
Y les envían a la muerte, pues en ocasiones sí.
Tenemos un paseo de wooden boat, una milla hacia tierra.
David contre Goliath, sans aucun doute, mais Oscar Camps et Gérard Canals ne se démontent pas. Leur ONG a reçu le prix du citoyen européen et si fin octobre, l'Astral est rentré à Barcelone pour des réparations, il y a quelques jours, un autre bateau, plus grand, plus équipé, le Golfo Azzurro, a pris la mer.
Des avocats qui offrent gratuitement leurs services aux plus démunis. Cela se passe en Bulgarie. Les clients ont droit à des consultations gratuites par téléphone. Bientôt, des centres spécialisés d'assistance légale ouvriront même leurs portes aux victimes de violences conjugales, aux handicapés ou encore aux personnes en dessous du seuil de pauvreté. Reportage de Damien Vonitscharov.
Blagoevgrad, 75 000 habitants, situé à 100 km au sud de Sofia. Connue pour ses universités, la ville est maintenant célèbre aussi pour son barreau. Les avocats y ont ouvert un des premiers centres d'assistance légale gratuite aux plus démunis. L'idée vient de l'avocat Maria Georgieva. Et depuis l'ouverture du centre, en octobre 2016, une trentaine de personnes a fait appel au service du bureau.
Ce sont les personnes les plus vulnérables qui viennent pour des consultations. Il s'agit surtout de problèmes liés au droit civil. Avant tout, ce sont des victimes de violences à domicile, mais aussi des personnes qui ont des difficultés conjugales et qui cherchent à divorcer, à obtenir l'autorité parentale, à avoir des droits de visite pour leurs enfants. C'est surtout ce genre de demande d'assistance qu'on a reçu dans le centre.
Certains cas exigent une action légale rapide, notamment en ce qui concerne les violences conjugales. La victime ne dispose que d'une période de 30 jours pour porter plainte. Le centre de consultation permet donc d'agir rapidement et d'avoir un accès direct à la représentation légale, explique Maria Georgieva du barreau de Blagoevgrad.
Quand on n'a pas les moyens d'obtenir l'assistance juridique d'un avocat, on se tourne vers des personnes qui n'ont rien à voir avec le droit. Et ça ne fait que compliquer le problème et retarder la prise de mesures rapides. Une grande partie des dossiers exige que l'on agisse à temps, qu'on respecte des délais. Sinon, cette personne pourrait perdre toute possibilité de demander que justice soit faite.
Les avocats traitent aussi des cas de succession et d'héritage compliqués en raison de la nationalisation des terres sous le communisme. Après la chute du régime, les terres ont été rendues à leurs propriétaires ou à leurs héritiers. Dans certains cas, la documentation fait défaut, puisque plus de 70 ans se sont écoulés depuis l'expropriation. C'est le cas de Botyo Trajchev, handicapé et atteint d'un cancer. Il ne peut se permettre de payer un avocat avec une retraite de 150 euros par mois. Il compte donc sur l'assistance gratuite pour prouver enfin qu'il est propriétaire d'un lopin de terre.
C'était les terres de mon père et de mon grand-père, mais on n'a plus les titres de propriété. Les seuls documents qu'on a sont des reçus pour des impôts payés de 1952 à 1957. Ensuite, ce lopin a été intégré aux coopératives lors de la collectivisation des terres. Après la chute du communisme, il a été donné à quelqu'un d'autre. Je veux juste récupérer ce qui est à moi, ce qui me revient de droit. Je ne veux pas de pitié ou de charité.
Restent les cas beaucoup plus complexes relatifs au trafic d'êtres humains. Les victimes constituent non seulement un groupe vulnérable, mais demandent aussi une compétence très spécialisée des avocats. Les ONG proposent des formations pour une meilleure communication entre victimes et avocats. Diliana Markova de la Fondation Animus, spécialisée dans la psychothérapie et l'assistance psychologique.
L'assistance juridique spécialisée est un moment clé dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et nous essayons d'en convaincre les élus. Mais les avocats qui font partie du Bureau national d'assistance juridique n'offrent qu'une aide très sommaire pour déterminer si les demandes relèvent du domaine du droit civil, pénal ou administratif. Ce n'est pas sérieux. La recherche de preuves et les droits des victimes exigent un travail poussé. Nous avons formé 25 avocats en Bulgarie et lorsqu'ils interviennent, il y a des résultats. Les victimes témoignent, les responsables sont condamnés à la prison ferme.
La législation en vigueur prend du retard sur ces exigences. Actuellement, elle ne prévoit que la création d'une ligne téléphonique d'assistance légale, mais les élus s'apprêtent à élargir la portée de la loi qui obligera tous les barreaux à créer des centres de consultation pour les plus démunis, comme à Blagoevgrad.
Alors les bullshit jobs, qu'est-ce que c'est? De l'anglais travail de caca de taureau, ça a été défini par David Grobert, que tout le monde connaît, comme l'aliénation de la majorité des travailleurs de bureau amenés à dédier leur vie à des tâches inutiles et vides de sens, tout en ayant pleinement conscience de la superficialité de leur contribution à la société. En gros, ils font de la merde, mais ils sont au courant.
Mais qu'est-ce que je fous là?
C'est fou le nombre de personnes à qui on a fait faire de longues études qui se vantent d'avoir trouvé un super boulot dans une super entreprise.
Dans la vie, je suis Customer Action Coordinator. En B2B, of course. Je suis à 70K par an sur les bonus.
Et qui finissent par se demander ce qu'ils foutent là.
Mais qu'est-ce que je fous là?
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Catherine.
Alors après cet extrait humoristique de la barbe, nos auditeurs ont deviné, Eve, que nous allons parler justement de ces jobs à la con. Alors pour parler plus sérieusement du sens qu'on donne au mot travail aujourd'hui, face au défi de la mondialisation, de la robotisation, quel avenir pour nos emplois? Et c'est un sujet qui bien sûr concerne les jeunes européens, des jeunes qui rêvent d'emplois, qui leur permettent de vivre, mais surtout qui ont du sens.
Et oui, c'est pour ça d'ailleurs que le terme de bullshit job est apparu, que l'on pourrait donc traduire comme vous l'avez fait par job à la con ou job bidon. On dit d'ailleurs que la génération Y, hein, vous savez, ce sont les jeunes nés dans les années 80 et après, ont un rapport au travail qui tranche véritablement avec celui de ses aînés. Pour eux, le burn-out, le surmenage, qui commence à être reconnu aujourd'hui comme une pathologie professionnelle, est aussi dangereux que son cousin, le bore-out, c'est-à-dire le fait de s'ennuyer au travail en étant sous-employé.
Et oui, on l'aura compris, l'obsession de ces jeunes, hein, évidemment, c'est le sens donné à son travail.
Le sens, toujours le sens, à tel point qu'aujourd'hui, des sites d'offres de travail intitulés Job That makes sense, des boulots qui ont du sens, ont fleuri sur le net, c'est bien qu'il y ait une demande. C'est en tout cas ce phénomène que dénonce l'anthropologue américain David Graeber, qui est le premier à avoir conceptualisé le phénomène du bullshit job, qui touche donc surtout les jeunes. Cet intellectuel de gauche, publié dans la revue anglaise Strike, connue pour ses prises de position radicales en 2013, un article intitulé sur le phénomène des bullshit jobs, où il décrivait donc cette perte de sens qui rend fou et aliène complètement les travailleurs.
Un article qui rappelle d'ailleurs comment les économistes de l'époque s'étaient imaginé en fait la répartition du travail.
Oui, et comment le progrès technologique a toujours été vu comme l'horizon d'une libération du travail, horizon qui s'est finalement constamment éloigné. En 1930, on pensait que les machines nous permettraient de travailler seulement 15 heures par semaine et mettraient un terme aux tâches rébarbatives et inintéressantes. Eh bien, un siècle plus tard, les débats actuels, dans de nombreux pays d'Europe en tout cas, portent plutôt sur l'allongement du temps de travail, aussi bien dans la journée que dans la vie, en repoussant l'âge de la retraite. Et les boulots sont-ils devenus plus intéressants pour autant ? Rien n'est moins sûr.
Oui, la faute, Eve, hein, si j'ai bien compris, à l'industrie des services au tertiaire.
Et à l'explosion des fonctions de support et des services aux entreprises. Les ressources humaines, le management, le droit, le contrôle qualité, la finance, la communication, le conseil, bref, c'est l'explication que donne David Graeber. Des boulots bidons peuvent aussi concerner plus largement les emplois de bureau, l'employé administratif ou le manager. Mais surtout, le premier symptôme de ces emplois, et ça c'est important, c'est la conviction un peu honteuse du salarié de ne servir à rien.
Oui, ce qu'on leur reproche aussi à ces emplois, c'est le manque de sens, parfois même d'un point de vue littéral au sens premier, hein, c'est-à-dire dans l'emploi des mots.
Oui, cette novlangue, directement issue de la grande ère du management des années 90, a mis en place un vocabulaire franglais, un mélange de français et d'anglais, qui fonctionne comme un écran de fumée. Tout cela donne l'impression de brasser du vent, de s'éloigner d'une tâche initiale clairement identifiée, de résultats tangibles finalement. Ces employés ont l'impression de perdre un temps fou dans des réunions, à écrire des centaines de mails, à remplir des formulaires, à rédiger des comptes rendus que personne ne lit, etc., etc.
Et en fait, l'émergence de ce phénomène raconte aussi le désenchantement des jeunes quand ils arrivent sur le marché du travail.
Oui, c'est surtout ça, car ces jeunes ont souvent fait de longues études pour atteindre des postes bien payés. Ils s'imaginaient, comme leurs parents, que trouver leur place et toucher un salaire suffirait à faire leur bonheur. Ils ont cravaché pendant des années de stage, ont eu du mal à décrocher leur premier contrat et se rendent compte qu'en réalité, le monde du travail n'est pas fait d'actions passionnantes et de postes épanouissants, ce qui a donné naissance à un autre phénomène, Catherine, les changements de carrière au virage de la trentaine. Mais ça fera l'objet d'une prochaine chronique.
Oui, sans aucun doute, Eve. En tout cas, vous ne vous plaignez pas. Hein?
Ah non, pas du tout, je suis très heureuse.
Eh bien, on vous retrouve la semaine prochaine, alors.
À la semaine prochaine, Catherine.
C'est un musée bien caché que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui à l'intérieur des terres siciliennes, le musée de l'émigration de Canicattini, qui raconte un voyage aux résonances troublantes avec celle des migrants d'aujourd'hui. Cécile Debarge nous en dit plus.
Des routes entrelacées, cabossées, et au bout, ce village aux façades somptueuses. En plein centre de la Sicile, qui s'est vidée de ses habitants, Canicattini Bagni s'est autoproclamée capitale du Liberty, du nom de ce style architectural qui fait des façades des maisons de véritables chefs-d'œuvre. Pourtant, il y a 50 ans, la petite ville n'était qu'une succession de rues défoncées. Sur les photos exposées au musée, on découvre les maisons de l'époque, des sortes d'étables, une seule pièce en fait où la famille vivait avec chèvres et vaches. Quelques décennies plus tard, les façades brillent. Ceux qui sont partis pour l'Amérique veulent montrer qu'ils sont devenus riches. Dans l'angle d'une salle du musée, des témoignages d'émigrés italiens, dont celui-là. Avant d'aller en Amérique, on m'avait dit que les rues étaient pavées d'or. Une fois arrivée, je me suis rendu compte que les rues n'étaient pas pavées d'or et qu'en fait, elles n'étaient pas pavées du tout. Et quelqu'un m'a dit que ce serait même à moi de les paver. Valisettes de fortune dans lesquelles on entasse une vie ou livrets de propagande distribués dans les campagnes pour promouvoir le rêve américain et faire marcher les affaires des passeurs de l'époque, tout cela est exposé. Le musée retrace le parcours de ces émigrés jusqu'à présenter également les charrettes de bois qu'ils utilisaient depuis les campagnes pour rejoindre les grands ports de l'île et prendre le bateau. Grâce à ce musée, c'est une histoire oubliée qui refait surface, celle d'Européens de la fin du 19e au début du 20e siècle qui fuyaient non pas la guerre, mais la misère et la pauvreté comme d'autres le font encore aujourd'hui. Et on quitte le musée avec cette étrange sensation qu'en un siècle, presque rien n'a changé.
Accent, c'est déjà fini. Jusqu'à demain, à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans quelques instants de journal.